sacrement le plus parfait, c'est-à-dire le mystère de l'Eucharistie, pour essayer de voir comment l'institution de l'Eucharistie, qui se prolonge dans le mystère de la messe, va nous faire saisir comment l'Église va préciser ce que Jésus a institué, va préciser ce mystère des sacrements. C'est évident que c'est à l'égard de l'Eucharistie, ce qui est assez normal, que c'est le plus facile de comprendre cela. Il y a toute une série de problèmes qui sont annexes à celui-là que je vois, que nous voyons maintenant. C'est la question, vous voyez, cette fameuse question qui a joué énormément. Je n'ai pas touché, mais il faut quand même en dire un mot la dernière fois. C'est la question des sacrements institués par le Christ. Vous voyez que si je pars des gestes du Christ, je n'ai plus besoin de regarder cette question. Au fond, ça, c'est une question apologétique. Je crois que nous devrions aujourd'hui bien faire attention aux questions proprement théologiques et les questions qui sont nées à partir de certaines querelles, qui sont des questions apologétiques. Et pour le traité de l'Église, c'est très important. Parce que tous les traités de l'Église, le traité de l'Église comme tel, est né à partir de problèmes apologétiques. C'est pour ça que le traité de l'Église aujourd'hui doit être repris autrement, et Vatican II nous le demande, que de le prendre dans la perspective même du Concile de Trente. Dans la perspective du Concile de Trente, il y a eu cette perspective apologétique face aux protestants. Je crois que nous devons être attentifs. L'apologétique peut conduire à la théologie, mais l'apologétique peut aussi fausser la perspective théologique. On doit être très attentif à ça. On doit être très attentif à la manière dont s'est posée une question. Il est évident que face aux protestants, qui disaient, face à Luther, si vous voulez, comme c'est le centenaire de Luther, il faut le saluer, alors face à Luther, qui disait que les sacrements n'étaient pas institués par le Christ, sauf le baptême et l'Eucharistie. Ça, ils l'ont reconnu, là. Les autres, non. C'est l'Église. Il y a eu à partir de là un problème que je considère apologétique, qui est important au point de vue théologique, je ne dis pas du tout qu'il n'a aucune valeur au point de vue théologique, mais il s'est posé une façon apologétique. Montrons comment tous les sacrements ont été fondés par le Christ. Puisque le Concile de Trente dit que les sacrements ont été institués par le Christ. Mais les sacrements, ça peut se regarder de deux manières différentes. Vous pouvez regarder le sacrement dans son fondement, et vous pouvez regarder le sacrement dans son usage. Le sacrement dans son usage est lié à la pratique de l'Église. On ne peut pas le nier, ça. C'est une évidence. Et le sacrement dans son fondement, alors là, est lié au geste du Christ. Il me semble qu'on n'a pas fait assez la distinction. D'où un dialogue de sourds. Bien évident, il y a un dialogue de sourds entre catholiques et protestants là-dessus. Il faut toujours être très... faire attention quand on est avec des protestants, il ne faut pas prendre tout de suite ce problème-là. On le prend en dernier lieu si on a le temps de le prendre. Il ne faut surtout pas prendre ce point de vue-là, parce que c'est tout de suite. Il y a deux perspectives différentes qui font qu'on se heurte. Ce n'est pas la peine, ça ne sert à rien. Ce qu'il faut, et je crois que c'est vraiment ce que Vatican II nous demande, c'est de reprendre tout à la source et ne pas continuer de faire un traité de l'Église, vous voyez, qui soit un traité de l'Église apologétique. Les traités de l'Église apologétique ont insisté donc sur l'aspect institutionnel de l'Église, l'aspect hiérarchique de l'Église. Et ça explique même le livre du Père Congar là-dessus. Et que je trouve que c'est de mauvaise théologie quand il fait la distinction entre institution et vie. Alors il oppose les deux. Ça, c'est un problème apologétique. C'est pas un problème théologique. Au point de vue théologique, jamais on a opposé le point de vue institution et le point de vue de la vie, puisque Jésus, en fondant l'Eucharistie, fonde l'Eucharistie comme une source de vie. Alors le problème ne se pose pas. Mais le problème s'est posé, c'est vrai, dans les discussions, et à propos des discussions, le problème se pose. Mais il faut faire grande attention à ça, parce que dans les discussions, vous voyez, c'est quelque chose qui est lointain par rapport à la source. Je dis ça comme méthode au point de vue théologique, hein, c'est comme méthode au point de vue théologique. Quand vous avez un problème au point de vue théologique, regardez à partir de quel moment est né ce problème. Et vous verrez tout de suite s'il est né à partir d'une querelle apologétique ou s'il est né à partir d'une interprétation de l'Écriture. Alors l'interprétation de l'Écriture peut aussi avoir une interférence apologétique. C'est bien évident, nous le verrons. À propos, faites ceci en mémoire de moi. Là, nous verrons. Le « faites ceci en mémoire de moi », c'est une parole de l'Écriture. Je ne peux pas aller au-delà. Mais je peux comprendre cette parole de l'Écriture de diverses manières. Alors là, je dirais que c'est nécessaire, on est en face d'une herméneutique de la parole de Dieu, d'une herméneutique de la parole du Christ, et alors il faut la reprendre dans sa source. On ne peut pas aller au-delà, c'est bien évident. Mais quand il s'agit par exemple de institution et vie, ah, ça c'est un problème second, c'est pas le problème premier de l'Écriture. Donc il ne faut pas prendre le problème là, il faut le reprendre à sa source. Autrement, on le prend au niveau de la canalisation. Et quand on le prend au niveau de la canalisation, ça ne va pas. Il faut le reprendre à la source. La théologie demande d'être tout le temps reprise à sa source. Si elle n'est pas reprise à sa source, la théologie alors continue à être une série d'opinions ou une série d'autorités qu'on se flanque à la tête les uns les autres. Ça ne va plus du tout. Dans un dialogue de théologiens protestants et théologiens catholiques, tant qu'on prie ensemble, ça va. Dès qu'on commence à discuter, immédiatement, allusion à l'autorité de Luther, allusion à l'autorité de saint Thomas, allusion à l'autorité de saint Augustin, et on peut discuter sans s'étendre. Et on discutera indéfiniment, parce que c'est pas comme ça qu'on arrivera. On arrivera à, loyalement, à dire, revenons à la source, puisque nous avons une source commune. C'est quand même curieux de ne pas revenir à la source, et d'essayer de comprendre cette source dans toute sa force. C'est ça qu'on doit toujours dire, si les catholiques aimaient plus le Christ et si les protestants aimaient plus le Christ, l'unité se ferait dans le Christ. Et on comprendrait, parce que c'est la source. Ça ne veut pas dire du jour au lendemain, c'est bien évident, parce qu'on revient au Christ en portant hein, toutes les opinions qu'on a. C'est bon, on a beaucoup de peine de brûler toutes ces opinions pour revenir au Christ dans une limpidité parfaite, mais la théologie, l'effort du théologien, c'est de revenir toujours au Christ dans sa limpidité la plus grande, c'est-à-dire en tant qu'il est source, et non pas la canalisation. La canalisation, ce sont les professeurs de théologie. Hein. Robinet d'eau chaude, robinet d'eau froide, d'abord pour la douche. Alors c'est les professeurs de théologie. Je n'ai rien contre les professeurs de théologie, vous voyez bien, hein, parce que je suis moi-même professeur de théologie. Mais ce que je veux dire, c'est que le professeur de théologie doit revenir lui-même à la source. Il doit faire l'effort pour donner une compréhension de ce que représente ce problème. Alors voyez, quand on a le passage des gestes du Christ, ce que nous avons essayé de comprendre, au problème du sacrement comme tel que l'Église le vit maintenant. Il y a un hiatus entre les deux. C'est bien évident, pas vouloir dire qu'il n'y a pas de hiatus entre les deux, ce serait une erreur tout simplement. Mais il faut comprendre qu'il y a une continuité, et une continuité substantielle. Que le hiatus existe parce que les réformes liturgiques existent. Et ne pas vouloir accepter les réformes liturgiques, c'est mettre l'absolu là où il n'est pas. Les réformes liturgiques, c'est quelque chose de second. Alors déjà, quand vous voyez le premier hiatus, vous voyez, c'est ça qui me semble important. Le premier passage, les gestes du Christ. Et puis, le point de vue des sacrements. Il y a un passage entre les deux, c'est bien évident. Les gestes du Christ, bon, tout le monde est d'accord que les gestes du Christ sont quelque chose d'absolu. Va, ton fils vit. Prends de la boue. Mais quand Jésus met de la boue sur les yeux, il fait un sacrement, c'est évident. La parole du Christ, avec sa salive, liée à la terre, peut refaire la vision de l'aveugle. Quand même, c'est très étonnant, c'est un geste. Demandez au prêtre de faire la même chose. Il ne fait pas la même chose. Mais ce geste fonde les sacrements. Et il fonde les sacrements. Et tous les sacrements sont fondés sur le geste du Christ. C'est ça que je crois que nous devons essayer de découvrir, au point de vue théologique, vous voyez. Parce que si je regarde uniquement les sacrements, je vois que les sacrements, à travers toute l'histoire de l'Église, par querelle continue actuellement, il y a un article du Père Brault dans France catholique, et puis alors il y a une lettre qui est lancée, et puis alors ça continue, c'est ce qui doit venir. Est-ce que saint Augustin s'est confessé? Saint Augustin s'est pas confessé. Allez demander à saint Augustin, quand il s'est confessé, est-ce qu'il se confessait toutes les semaines? Est-ce qu'il se confessait tous les mois? Est-ce qu'il se confessait tous les jours? Historiquement, ça ne fait pas partie des annales. Vous ne mettez pas dans vos annales de votre vie, n'est-ce pas, les jours où vous confessez. Avant, vous seriez obsédé. Alors à ce moment-là, ça devient très dangereux, n'est-ce pas? Mais autrement, normalement, non. La pratique de l'Église, ça se dit pas, ça se vit. Alors quand on ne croit que l'histoire positive, mais la pratique vient pas plus loin que l'histoire, voyons. Ça prouve qu'on est terriblement obtus de ramener la vie de l'Église à des témoignages historiques. C'est pas la même chose du tout. C'est toujours les mêmes querelles, hein. C'est le positivisme avec le point de vue de la vie. Alors il faut comprendre les choses, hein. Si on ne comprend pas, c'est impossible. Bon, les sacrements sont portés par la tradition. Et les sacrements auront de fait, dans la pratique de l'Église, des modalités très différentes. Et chaque fois, ça fait des pétards dans tous les sens, hein. Chaque fois qu'on change la diversité liturgique des sacrements, le halo qui regarde au point de vue et qui est le point de vue liturgique. Alors chaque fois, ça se modifie, ça s'est modifié plusieurs fois dans le cours de l'Église. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal, ça, que les sacrements, il faudra le voir du reste, hein, pourquoi la parole de Dieu demeure toujours la même et que les sacrements se modifient. Parce que ça fait la partie de la grandeur. Et alors, si les sacrements ne sont pas portés par la tradition et soutenus par la tradition, alors on verra la diversité et on ne verra plus la continuité. Mais la tradition, vous comprenez bien, ça, il faut vivre. Il faut le vivre, autrement c'est impossible. La tradition, ce n'est pas l'histoire. Je ne peux pas dire que la méthode historique va épuiser la tradition. Pas du tout. La tradition est un mystère qui est fondamental dans le point de vue de l'Église. C'est là où on voit très bien que si on regarde les sacrements de l'extérieur d'un point de vue purement sociologique, vous ne pouvez pas. Ce sont des gestes du Christ qui continuent, qui sont portés par la tradition. La tradition porte les gestes du Christ et porte les paroles de Jésus. Il y a les deux. Et c'est la tradition qui fait justement la continuité dans l'Église. La continuité vient de la tradition. C'est une continuité qui est sous le souffle de l'Esprit-Saint. Je ne peux pas l'expliquer autrement. C'est une continuité que portait, puisque la tradition, c'est vraiment le cœur des saints qui porte les gestes du Christ, qui porte les paroles du Christ, sous l'action de l'Esprit-Saint. Alors si vous supprimez l'Esprit-Saint, vous supprimez la tradition. Et si vous supprimez la tradition, vous ne regardez plus que les choses historiques. Et donc, vous ne regardez plus que l'écorce. Et vous regardez donc, avant tout, la diversité, vous ne comprenez plus la continuité. Et alors, vous avez des brisures. Vous voyez, c'est très important de saisir ces passages différents. Alors, le problème, vous voyez, de l'institution des sacrements. Si je vois que les sacrements s'enracinent dans les gestes du Christ, alors à ce moment-là, je comprends. Mais si je prends les sacrements tels qu'ils sont vécus à telle époque, mais Jésus ne les a jamais vécus comme ça, c'est bien évident. Alors je ne peux plus. Et voyez, là, il faut comprendre ce que, au point de vue philosophique, nous faisons la distinction entre la ratio et le modus. Si vous ne comprenez pas cette distinction-là, impossible, hein, il faudra casser la tête du bonhomme pour qu'il comprenne. Donc c'est un peu, c'est pas la peine, il va comprendre. Mais c'est la ratio, le modus. Il y a quelque chose qui continue, c'est justement l'essentiel de la signification. C'est le problème de la signification, à ce point-là, c'est très actuel. La signification du geste qui va continuer dans les sacrements. Et ça, c'est la ratio. Et mais la signification est donnée autrement par le Christ, autrement par l'Église. C'est allo, allo. Hein. C'est autre, autre. Autre par le Christ, autre par l'Église. Et pourtant, c'est la même signification. Alors, une fois qu'on a saisi ça, le problème de l'institution, je dis bien, c'est un problème apologétique. C'est pas un problème théologique. Le problème théologique, c'est de revenir à la source. Il était apologétique, pourquoi ? Parce qu'on a été en face des protestants qui ont dit « Non, le Christ n'a pas institué les sacrements. » Attention. Les sacrements, qu'est-ce que c'est par rapport à Jésus ? Ce sont les gestes du Christ que l'Église a reçus. Et l'Église, les ayant reçus, elle a complété, elle a précisé. Elle en a vécu, et en a vécu à sa manière. Parce que la manière de vivre de l'Église n'est pas celle du Christ. L'Église vit comme le peuple de Dieu, et le Christ vit comme la tête de ce peuple de Dieu. Et donc la manière de vivre du Christ n'est pas la même que celle de l'Église. On est tous d'accord là-dessus, parce que c'était... Sauf si vous tombez dans une espèce de panthéisme, justement, et que vous ne voyez plus la manière propre. L'immanentisme fait ça. On croit que c'est la même manière, mais pas du tout. Le Christ vit comme tête, il vit comme fils bien-aimé du Père. Et l'Église, elle vit comme l'épouse, c'est-à-dire toute relative au Christ. Tandis que le Christ, lui, vit comme tout relatif au Père. Il n'est pas relatif à l'Église, il est source. Alors il est la tête, alors, c'est lui qui est source. C'est très important par rapport à ce problème-là. Vous voyez, j'ai pensé la dernière fois, je me suis dit, il faut revenir là-dessus pour qu'il n'y ait pas d'équivoque, hein, pour qu'on comprenne bien. Parce que c'est un des problèmes auxquels on se heurte tout le temps. Le problème de l'institution des sacrements. Alors, je ne l'ai pas posé, et j'ai fait consciemment de ne pas le poser. Mais je mets nota bene pour que vous compreniez. Vous voyez, parce qu'il s'agit de bien comprendre au point de vue méthode ce que nous faisons. Je ne prends pas une méthode apologétique. Parce que je crois que la méthode apologétique, ça ne marche plus. Ça ne marche plus. C'était peut-être très bon au 19e siècle, c'était peut-être très bon au début de ce siècle, mais maintenant nous arrivons à quelque chose de tout à fait différent. Et le Concile Vatican II nous oblige de reprendre les choses à leur source. À ce point de vue-là, c'est un bien. Paul, c'est très... Vivre d'apologétique, vous savez, ça ne nourrit pas beaucoup. Non, c'est pas une nourriture très substantielle. Hein. C'est une nourriture... secondaire, parce que vous êtes toujours à loucher. Qu'est-ce que fait le voisin? Qu'est-ce que vous faites? Oh, mais on a bien plus, on a bien mieux que ça, mais nous avons nous ça. Et ça, c'est l'apologétique. L'apologétique d'une communauté par rapport à l'autre communauté, c'est toujours loucher sur l'autre communauté. Alors, dès qu'on l'autre fait, immédiatement on le fait. Ah, mais pourquoi vous le faites? Ah, je sais pas, l'autre le fait. Et alors, c'est comme ça l'apologétique, c'est pas la finalité. Reprendre par la finalité, c'est reprendre en redonnant la signification des gestes, ça vient de la fin. Et les sacrements, leur signification, prennent le côté de la fin. Et la fin, c'est la communication de l'amour. C'est l'amour du Christ qui nous est communiqué. Et c'est cette communication de l'amour du Christ qui nous est communiqué par ses gestes, qui nous est communiqué par les sacrements. C'est la communication de l'amour. Donc, c'est toujours cette finalité qui va nous donner la signification, qui va nous permettre de voir le lien entre les sacrements qui fondent, entre les gestes du Christ qui fondent les sacrements. Non. C'est une première remarque. Hein, je dis ça. Deuxième petite remarque, que je crois aussi importante. Après, nous continuerons. Hein. Je m'excuse, mais c'est peut-être pas mauvais de temps en temps de faire des nota bene, n'est-ce pas, pour que vous voyez bien. parce qu'il n'y a pas de questions posées, c'est moi qui les pose. Alors, deuxième petite question importante, qui est encore une question apologétique, et pour bien montrer que nous n'étons pas dans cette perspective, mais je le dis parce que nous sommes tellement empêtrés d'apologétique qu'il s'agit de nous dépouiller de cela, nous purifier de cela, et reprendre les problèmes vraiment dans une perspective théologique. C'est la question du nombre des sacrements. Alors évidemment, je pourrais le poser après, mais je peux le poser aussi maintenant tout de suite, pour que nous comprenions mieux. Bon, vous savez bien que cette question du nombre des sacrements s'est posée avec le Concile de Trente, face à Luther. C'est normal que l'Église ait répondu à Luther. Hein. On voulait réduire les sacrements à quelques-uns seulement. Et l'Église a répondu, non, 7 sacrements. La pratique de l'Église, 7 sacrements. La pratique de l'Église à ce moment-là. Et la pratique de l'Église, non seulement à ce moment-là, mais comme 7 sacrements institués par le Christ. Ça, c'est la réponse. 7 sacrements institués par le Christ. Alors, 7 sacrements. S'ils sont 7, il y a donc un ordre. Quel est l'ordre de ces sacrements ? Bon. L'ordre de ces sacrements, c'est facile à comprendre, il y a deux extrêmes. Les deux extrêmes, c'est le baptême et l'Eucharistie. Et je dis bien le baptême et l'Eucharistie. Et ce sont des questions que les chrétiens se posent. Hein. Encore hier, dans un petit groupe auquel je vois régulièrement, il y a quelqu'un qui a tout de suite posé la question, mais c'est curieux que à propos du synode sur la réconciliation, on n'ait pas montré le point de vue de la pénitence comme quelque chose d'ultime qui nous fait entrer dans le ciel. Alors, il y a non, c'est pas la pénitence, c'est pas le sacrement de réconciliation, c'est l'Eucharistie. On n'a jamais dit que le sacrement de réconciliation, c'est le viatique. C'est l'Eucharistie qui est viatique. Parce que c'est la porte du ciel. L'Eucharistie nous fait entrer dans le mystère du ciel. Tandis que pas la réconciliation. La réconciliation, c'est pour l'Eucharistie. C'est pour vivre de l'Eucharistie. Mais ce n'est pas quelque chose d'ultime. Ce n'est pas dernier. Oui, c'est quand même celui qui est dernier. Vous voyez, en bonne pratique, quand vous voyez quelqu'un qui est au terme de sa vie, qui n'a pas pratiqué, vous lui donnez le sacrement de pénitence et ensuite vous lui donnez l'Eucharistie. Et vous ne dites pas, maintenant, vous avez reçu le sacrement de pénitence, c'est suffisant. Pas du tout. Oui, c'est ça que je veux montrer. C'est ultime. Oui, c'est pas la réconciliation qui est ultime. Miséricorde, amour, vous voyez ? Au fond, c'est l'ordre profond, point de vue théologique, entre miséricorde et l'amour. La miséricorde est pour l'amour, et pas l'amour pour la miséricorde. C'est toujours l'amour qui est dernier, qui est le dernier point. Mais c'est important de souligner ces choses-là, parce que ça nous aide à comprendre l'ordre des sacrements. Vous savez comment saint Thomas donne l'ordre des sacrements, et saint Thomas là, le donne comme une façon tout à fait classique. L'ordre des sacrements, il le donne à partir de l'homme. Et c'est très intéressant de voir ça. On fait ça pour les sacrements, on ne fait jamais ça par rapport à la parole de Dieu. On ne donne jamais l'ordre des livres qui sont consacrés par rapport à des livres canoniques, par rapport à l'homme. Mais on le fait pour les sacrements. Vous voyez, là encore, c'est un petit signe très intéressant pour montrer la différence de la théologie des sacrements et de la théologie de la parole de Dieu. S'il y a une diversité dans l'écriture, hein, s'il y a des livres si différents, c'est pourquoi ? En référence avec l'enseignement de Dieu pour l'homme. C'est pour montrer toute la richesse du mystère de Dieu. Tandis que les sacrements sont divers, non pas pour montrer la richesse de la miséricorde en elle-même, mais c'est pour nous montrer la richesse de la miséricorde par rapport à l'homme. Et c'est pour ça que la diversité des sacrements va se prendre par rapport à l'homme, par rapport aux étapes de l'homme. Sacrement propter homines. On ne dit pas que la parole de Dieu, verbum dei propter homines. Curieux, c'est intéressant. C'est pour l'homme, c'est bien évident que la révélation est pour l'homme. Mais il y a dans la parole de Dieu quelque chose qui se tient par elle-même. Tandis que dans les sacrements, proteromines, signe pratique. C'est l'amour. Vous voyez ? Et ça, c'est aussi quelque chose qui est intéressant à souligner parce que ça nous aide à mieux comprendre ce qu'est le geste comparativement à la parole. Le geste est beaucoup plus dépendant de la personne qui le reçoit. Est beaucoup plus finalisé par la personne qui le reçoit que la parole. Ça me semble très très net, parce qu'il est plus individualisé. Alors étant plus individualisé, il est beaucoup plus dépendant de l'autre. Tandis que la parole a quelque chose, une signification qui se tient par elle-même. Alors, saint Thomas regarde tout simplement les différentes étapes de la vie humaine. Et par rapport aux étapes de la vie humaine, vous avez les sept sacrements. Les sept sacrements se donnent en fonction des différentes étapes de la vie humaine. La naissance, l'aliment. Ah, vous allez dire, bon, donc c'est pas l'ultime l'aliment. Ah oui, on va voir. C'est très vrai. Ce sont des analogies. Hein. Ce sont des analogies qui portent sur un point, mais pas totalement. C'est pas univoque. Hein. Donc, il y a la naissance, l'aliment. Il y a l'infirmerie. Il faut bien, quoi. Ça ne pousse pas tout de suite, il faut bien qu'il y ait le médecin. Quoi. Alors, s'il y a le médecin, il faut des remèdes. Donc, il y a la pénitence. C'est l'infirmerie, ça. Mais, il prend des tonalités différentes, hein, particulières, mais les grands blessés, les petits blessés, on voit très bien. Alors, il y a l'infirmerie, il y a le passage à un âge où on est adulte, on prend possession de sa vie. La confirmation, ça fait partie de la croissance. Et à ce moment-là, on est conscient de faire partie de la communauté humaine. Alors, il y a la confirmation, il y a le mystère de la fécondité, la procréation, donc le couple, le sacrement du couple, le sacrement du mariage, et parallèlement au mariage, la fécondité divine, puisque l'Eucharistie est liée au sacerdoce. Le sacrement du sacerdoce pour l'Eucharistie, et à cause de l'Eucharistie, comme nous le verrons. Et puis alors l'extrême-onction, le sacrement de la vie montante. Et c'est le sacrement de la vie montante, c'est qu'on a besoin de l'extrême-onction pour le dernier effort, que voulez-vous, c'est la canne hein, de la vie montante, il faut avoir un troisième pied, alors il faut une troisième chose qui vient nous aider et qui vient permettre d'aider le corps. Hein. L'extrême-onction, c'est pour le corps, pour que le corps soit un tout petit peu plus capable de lutter. Et l'extrême-onction donnée est tout à fait comme ça. Les communautés saintes et contemplatives, on donne l'extrême onction à toutes celles qui ont un certain âge. Donc ça, la communauté sage, on va donner l'extrême onction à tous ceux qui ont un certain âge. Et c'est vrai, c'est bien, donner l'extrême onction. À partir d'un certain âge, on a le droit de recevoir l'extrême onction. Il n'y a pas beaucoup dans la communauté sage, mais c'est vrai. Donc, alors, c'est donné pour la vie montante, la dernière étape de la vie. Vous voyez donc, c'est bien donné par rapport à la vie humaine. Et les sept sacrements sont en référence avec les étapes de la vie humaine. Bon, ça c'est l'explication du théologien. Mais vous voyez que cette explication du théologien ne se ramène pas aux gestes du Christ. Mais comme les gestes du Christ sont des gestes de miséricorde par rapport à l'homme, et par rapport à toutes les étapes de l'homme, on comprend très bien. En référence avec le Christ qui s'occupe de l'homme et qui prend l'homme dans sa totalité. Et Jésus prend l'homme dans sa totalité, puisque déjà lui-même a voulu prendre l'homme dans toutes ses étapes. Bon, si le Christ a voulu prendre l'homme dans toutes ses étapes, on comprend très bien que de fait, il va sanctifier l'homme dans toutes ses étapes. Et alors, on aura toutes les étapes que le Christ va assumer en lui-même et toutes les étapes de l'homme que le Christ va, de fait, envelopper de sa miséricorde. Et les gestes de miséricorde du Christ, ce sont les sacrements. Donc par là, vous avez le point de vue. Une fois qu'on a compris cela, je peux regarder les deux extrêmes. Et je dis que les deux extrêmes des sacrements, c'est le point de vue du baptême. Tout le monde est d'accord que le baptême est fondamental, puisque sans le baptême, je ne peux pas recevoir les autres sacrements. Donc le baptême, c'est le sacrement qui me fait entrer dans l'ordre sacramentel. C'est la porte qui me fait entrer dans le point de vue des sacrements. Et quel est le sacrement ultime? C'est l'Eucharistie. Alors c'est là où les équivoques peuvent venir. Hein. Parce que je pourrais dire, mais non, le sacrement ultime, c'est l'extrême-onction. Le sacrement de l'extrême-onction est ultime par rapport à l'analogie des étapes humaines. C'est vrai. Mais puisque ce n'est qu'une analogie, il faut regarder les sacrements par rapport à la communication de l'amour, par rapport à la communication de la miséricorde. Or, dans le sacrement de l'Eucharistie, c'est là où la communication de l'amour est la plus forte, puisque c'est le don du corps du Christ lui-même. Si c'est le don du corps du Christ lui-même, il y a donc dans l'Eucharistie quelque chose d'unique par rapport à tous les sacrements. Et c'est pour ça que le sacrement de l'Eucharistie a toujours été considéré traditionnellement comme le sacrement le plus parfait. Ce livre du père Vaunier sur le point de vue l'Eucharistie, la clé des sacrements. À son époque, quand ça a paru, c'était très beau du reste. C'était quelque chose qui était une mise en valeur de montrer bien que l'Eucharistie est la clé de tous les sacrements. Et c'est l'Eucharistie qui donne la compréhension de tous les sacrements. Pourquoi? Parce qu'il est le premier dans l'ordre de perfection. Premier dans l'ordre de perfection et dans l'ordre de finalité. Donc vous voyez, c'est très important de voir cette double analogie dont je me sers. Je vous ai dit que dès qu'on s'agit du point de vue théologique, il faut toujours prendre deux analogies. Si vous n'en prenez qu'une, vous falsifiez tout. Première analogie du nombre des sacrements par rapport aux étapes de l'homme. Deuxième analogie par rapport à l'ordre des sacrements, qui est la remontée vers le Christ et la communication de l'amour. Alors à ce moment-là, je peux avoir à la fois la signification de la multiplicité et puis la signification de l'ordre, deux significations différentes. Donc si j'essaie de comprendre quel est le sacrement fondamental, c'est le baptême, le sacrement le plus parfait, l'Eucharistie. C'est le sacrement le plus parfait. C'est le sacrement par excellence. C'est le sacrement donc qui va me faire comprendre les autres sacrements. Si je me place du côté de la sacramentalité, savoir qu'est-ce que c'est que le sacrement, il faut regarder l'Eucharistie. Si je ne regarde pas l'Eucharistie, je ne comprends rien du tout. C'est le sacrement par excellence. Et c'est pour ça que nous commençons par le sacrement de l'Eucharistie. Vous voyez ? Parce que c'est lui qui va nous permettre de mieux comprendre le passage du geste au sacrement. Si, du côté du sacrement de l'Eucharistie, ce passage du geste au sacrement est très explicite, j'ai la clé. Je n'aurai plus qu'après pour le chercher pour les autres. Je ne trouverai peut-être pas toujours, ça n'a pas tellement d'importance. On cherche, hein. Le théologien doit chercher. Et il ne doit pas dire qu'il a tout découvert. Non, il doit chercher. Il ne pose pas d'interrogation, il le découvrira progressivement. Mais c'est important de comprendre que, au plan de vue théologique, et si je réfléchis sur la théologie des sacrements, c'est nécessairement l'Eucharistie qui doit me donner la clé du passage du geste au sacrement. Alors, troisième petite remarque, toujours les nota bene. Hein. Vous mettez ça à côté, hein, dans votre chantier, parce qu'il y a des nota bene qu'il faut mettre ça dans les chantiers, au point de vue méthode. Alors, troisième petite remarque, c'est très net que dans la philosophie contemporaine, petite remarque critique, dans la philosophie contemporaine, la finalité étant laissée de côté, on est en train de la retrouver, mais lentement, le point de vue du fondement est premier. Et vous voyez ça de façon remarquable dans Heidegger, puisqu'il parle de l'ontologie fondamentale, sans voir que c'est un pléonasme. Et quand on voit qu'on ne voit pas que c'est un pléonasme, ça prouve que justement on a perdu complètement le sens de la réalité. L'ontologie fondamentale, l'ontologie est forcément fondamentale, ça pourrait être autrement. Ou bien il faudrait une nihilologie. Alors, la nihilologie, ce n'est pas encore inventé au moment. voyez. Alors, une ichéologie, c'est pour montrer justement que le rien est fondement de toute chose. Alors, vous voyez, vous retrouvez ce que le point de vue des théologiens qui dit qu'à partir de... est en premier lieu l'abîme, est en premier lieu le néant. L'être est nécessairement fondement. Donc, parler de ontologie fondamentale, pour quelqu'un qui a un tout petit peu le sens de la philosophie première, ça fait crier. Parce que c'est nécessairement fondamental. Alors, c'est intéressant parce que ça met l'accent sur fondamental. Et que c'est le fondamental qui doit donner la signification. Or, la signification ne vient pas du fondamental, mais vient de la fin. Ouais, c'est intéressant à souligner ça. Ben, je crois que ceci fait partie, voyez, de la modernité. Si j'essaie de saisir, ça fait partie de la modernité. C'est pas ça qui explique la modernité. Pourquoi je mets le fondement avant tout? C'est parce que je mets la finalité entre parenthèses. Ne regardant plus la finalité, il faut bien s'appuyer sur quelque chose. Alors on s'appuie sur les fondements. Au niveau de la causalité exemplaire, on s'appuie sur les fondements. Au niveau de la causalité formelle, on s'appuie sur la finalité, et quand la finalité n'est plus là, sur le fondement. Ça ne peut pas être autrement. La cause formelle n'est pas quelque chose qui nous donne suffisamment de stabilité. C'est impossible. Donc, ou elle s'appuie sur le fondement, ou sur la finalité. Si on supprime le point de vue de la finalité, on a la tentation de mettre la négation avant l'affirmation. Et si vous mettez la négation avant l'affirmation, vous devez donc chercher quel est le fondement. Tout de suite. Puisque le rien ne peut pas être fondement. La nihilologie, n'est-ce pas, ne permet pas de fonder. Donc il faut chercher quel est le fondement. Et alors immédiatement, c'est le point de vue du fondement qui remplace la finalité. Donc il y a une logique là-dedans. Il y a une logique qu'il faut saisir. Alors, dans cette perspective-là, vous comprenez très bien comment on a la tentation de dire le sacrement par excellence est le baptême. Et si vous regardez la tendance œcuménique d'aujourd'hui, vous voyez que tout se fonde sur le baptême. Et que vous ne mettez plus l'Eucharistie à sa véritable place comme étant le sacrement par excellence. Pourquoi ? Parce que grâce au baptême, au fondement du baptême, vous avez donc une possibilité d'unité. Ce qui n'est pas la véritable unité. C'est une unité matérielle. Et ce n'est pas la véritable unité. Donc, on ne pourra pas aboutir par là. C'est impossible. Et ça, c'est la tentation de la théologie moderne, qui met le fondement à la place de la finalité. Ça nous aide à comprendre certaines positions, vous voyez. Il faut les comprendre, il ne faut pas les nier, il faut les comprendre et voir d'où ça vient. Un manque de critique. On n'a pas été assez loin. On a cru que le point de vue du fondement est premier par rapport à la finalité. Alors que non, c'est la finalité qui donne le sens profond des sacrements. Puisque les sacrements, c'est en vue de la communication de l'amour. Alors, si c'est en vue de la communication de l'amour, on peut dire que l'Eucharistie qui nous donne le corps du Christ, qui implique le don, c'est le sacrement de l'amour par excellence. Alors, vous voyez comment, dans une théologie qui se base sur une philosophie où le fondement remplace sa finalité, on aura la tentation de dire que c'est le baptême qui est le sacrement par excellence. Les vieux missionnaires, hein, toujours intéressant les vieux missionnaires, parce qu'ils se font rares. Alors les vieux missionnaires disaient toujours que tant que l'Eucharistie n'était pas présent, l'Église n'était pas fondée. L'Église n'était pas. Le baptême, non, c'est pas assez. C'est le fondement, mais ça appelle autre chose. Et tout l'usage de l'Église est là. Le baptême est en vue de l'Eucharistie. C'est pour l'Eucharistie. On ne peut pas s'arrêter au baptême. Donc, c'est en vue de l'Eucharistie. C'est pour l'Eucharistie. On s'arrête au baptême quand on a trop peur de pécher. Alors on se dit, je vais me baptiser à la dernière minute, comme ça j'irai tout de suite au ciel. Hein, c'est la tactique de certains, ça. Si je vais baptiser, je continuerai de pécher. En continuant de pécher, c'est très ennuyeux, je devrais me confesser. J'aime pas ça du tout. L'immense avantage du baptême, c'est que j'ai besoin de rien dire. Je suis comme un gosse. Alors je ne dis rien, on me baptise, et puis ça y est, j'entre dans le ciel. Mais vous voyez, le baptême, là, même donné à un adulte, devrait impliquer tout de suite après l'Eucharistie, selon la coutume de l'Église. Et l'Eucharistie serait donnée immédiatement. Bon. Alors, ceci, c'était des nota bene pour que nous puissions ensuite mieux comprendre le passage du geste au sacrement. Et je reprendrai la fois prochaine ce que représente l'institution de l'Eucharistie, ce que nous appelons habituellement l'institution de l'Eucharistie. Et là, tout le monde est d'accord. C'est merveilleux. Je ne fais pas d'apologétique, mais c'est un fait. C'est vrai que Jésus a institué l'Eucharistie. Mais faisons attention, c'est ce geste du Christ à la scène qui va nous faire comprendre la signification profonde de cette institution.